Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir à 20h45 sur France 3, Franck Ferrand, vous nous proposerez un nouveau numéro de L'ombre d'un doute. Un numéro consacré à l'un des pires tueurs en série de l'histoire de France. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Le docteur Petiot était surnommé docteur Satan et vous allez voir que ce n'était pas pour rien. C'est vraiment un affreux personnage, coupable d'avoir tué au moins 27 personnes. Je dis bien au moins, car ça c'est l'estimation minimale. En fait, il en a peut-être tué trois fois plus. Tout ça en profitant de leur détresse et de la confusion qui régnait dans cette période de l'occupation. Bien des zones d'ombre émaillent encore cette affaire. Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour rouvrir ce dossier tout à fait passionnant.
Et cet après-midi, c'est un tout autre dossier que vous avez choisi de rouvrir.
Et oui, en effet, celui de la guerre d'Indochine, en compagnie de Patrice Gélinet, qui est l'auteur d'un ouvrage adapté d'une série d'émissions de France Culture. Ça s'appelle Indochine 1945-1954. Chronique d'une guerre oubliée, et c'est vrai qu'elle est largement oubliée, cette guerre. Alors, pour nous mettre dans le bain, je vous propose de revivre ensemble le terrible épisode de Cao Bang, c'était en 1950.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Antoine sur l'origine du terme cousin germain.
Eh bien, comme ça, on va faire un petit peu de latin. Pour le moment, ce ne sont pas les cousins germains que nous retrouvons en Indochine, ce sont des soldats engagés du corps expéditionnaire.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Quand commence l'affaire qui va nous occuper aujourd'hui, on est en décembre 1949 et ça fait déjà nettement plus de 3 ans que dure la guerre d'Indochine. On est à Cao Bang. Cao Bang, c'est vraiment l'extrême nord du Vietnam. On est dans le Tonkin, bien entendu, pas très loin de la frontière chinoise, pas très loin de la somptueuse province du Yunnan. Il faut imaginer les montagnes noires. Il faut imaginer dans les vallées, si je puis dire, ces rizières. Et puis, tout autour, les forêts tropicales d'accès très difficile. On va venir dans un instant sur la végétation et sur le milieu naturel dans lequel a eu lieu cette guerre. Je pense que ça a joué un rôle tout à fait essentiel. Alors, en 1945, après la chute de l'Empire japonais, qui occupait jusque-là l'Indochine française, ça aussi on en dira un mot tout à l'heure avec mon invité, le leader communiste Ho Chi Minh s'est dressé contre la puissance coloniale. Vous savez que la France de la 4e République a fait un premier pas en acceptant un Vietnam autonome au sein de l'Union française, mais c'est bientôt une guerre qui va opposer la France au Viet Minh. Le Viet Minh, c'est ce mouvement dans lequel on trouve aussi bien des communistes que des nationalistes qui veulent l'indépendance totale du Vietnam. Le point de départ de cette guerre remonte à la fin de l'année 1946. Le 23 novembre, la marine française a bombardé le port d'Haïphong, à une centaine de kilomètres d'Hanoï, Hanoï étant la capitale du Tonkin. Une insurrection conduite par le Viet Minh va éclater, là, quelques semaines plus tard, le 19 décembre, à Hanoï, justement. Le corps expéditionnaire compte à l'époque 160 000 hommes. C'est très important qu'on parle d'un corps expéditionnaire et de militaires engagés, parce que bien entendu, pour ce qui est de la perception du conflit depuis la France libérée depuis très peu de temps, ça va tout changer. Un tiers de ce contingent, il faut le souligner à chaque fois, est constitué d'une population originaire d'Indochine. Alors on croise aussi des légionnaires, pour la plupart allemands, ce qui est un paradoxe, n'est-ce pas ? On sort de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des Nord-Africains, des Sénégalais. Côté Viet Minh, Ho Chi Minh est caché littéralement dans cette épaisse jungle du Tonkin, au nord du Vietnam, et celui qui va conduire les opérations militaires, c'est le général Giap. Ce général Giap a donné un certain nombre d'interviews, et notamment à notre invité, on va en parler tout à l'heure. Alors, l'armée sait que le Viet Minh est extrêmement dangereux, avec une réputation de très grande violence. Un exemple de ce qu'on peut entendre à l'époque sur Radio Saigon. Ici, Radio Saïgon. Les tortures abominables qu'ont exercées les Viet Minh dépassent en sadisme tout ce qu'on peut imaginer. Quel horrible martyr, par exemple, que celui de ce village où les habitants furent enterrés jusqu'au cou par les rebelles, puis décapités par des herses traînées par des buffles. C'est vrai que, évidemment, alors dans les situations de guerre, et là pour ce qui nous concerne plutôt peut-être de guérilla, on est habitué aux violences les plus extrêmes. Mais c'est vrai que dans les rangs du Viet Minh, on sait impressionner l'adversaire. Voici ce que nous dit Yves Gras, cité par Patrice Gélinet. Je me rappelle très bien qu'en arrivant au Tonkin, un des camarades qui était dans un service de renseignement m'avait expliqué ce qu'était l'armée Viet que nous avions face à nous. Il m'avait dit « Les Viet ont tant de bataillons, chaque bataillon comporte tant de compagnies avec tel armement ». Je lui avais dit « Mais y alors, ils sont aussi forts que nous ?» Il m'avait répondu « Ils sont aussi forts que nous, mais le commandement ne veut pas le croire ». Et ça, c'est la deuxième des grandes questions que nous aurons tout à l'heure à nous poser. C'est celle, justement, des prises en compte de la réalité militaire, stratégique, tactique, par le commandement sur place en Indochine. Là où le corps expéditionnaire français a le plus de difficultés, c'est justement dans cette région du nord du Tonkin, là même où Ho Chi Minh et ses conseillers sont embusqués. Voilà ce que dit le général Bijard, toujours au micro de Patrice Gélinet. « Pour moi, le Tonkin, c'était les combats durs. Le Tonkinois qui est plus viril, le pays plus dur. La haute région, c'est quelque chose de dantesque, avec la rivière noire qui coule entre ces montagnes. Pour moi, le Tonkin m'a pris aux tripes. » Et lorsque le général Bijard disait ça, c'était pas seulement une allusion évidemment à l'angoisse qui s'attache à ce territoire tellement difficile, c'était aussi une forme de très grand attachement, de très grande révérence pour la splendeur du Tonkin et de son étonnant climat. Alors, là où vont se concentrer les affrontements, c'est tout le long de la route coloniale numéro 4, ce qu'on appelle la RC4. C'est là que les difficultés vont être nombreuses. Une route qui fait 116 km le long de la frontière chinoise, de Langson à Kaobang. Kaobang, ville stratégique, parce que c'est elle qui bloque tout ce qui peut venir de Chine. C'est donc un point absolument essentiel et qu'il faut contrôler. Cette route, c'est 116 km de RC4, cette route on l'appelle la route sanglante. La dernière portion de la route, de Donghae jusqu'à Kaobang, est particulièrement difficile. Il faut imaginer une cinquantaine de kilomètres au milieu de la forêt tropicale, avec des gorges étroites, des cols élevés, des falaises calcaires abruptes. On est déjà dans ces grands reliefs qu'on trouve de l'autre côté de la frontière chinoise. Tous les 10-20 kilomètres, des postes chargés de défendre la route sur des pitons rocheux, pour le passage des convois de ravitaillement. Mais évidemment, en face, l'ennemi, enfin les rebelles, vont organiser de nombreuses embuscades et les déplacements vont devenir de plus en plus aventureux. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est un peu le Far West, si vous voulez, dans cette région septentrionale. Des trous ont été creusés un peu partout. Le Viet Minh a posé des mines et d'une certaine manière, on peut se demander pourquoi l'armée française ne quitte pas Kaobang. On n'est pas en sécurité là-bas du tout, tout est particulièrement difficile. Or, le général Revers, qui est chef d'état-major de l'armée de terre en visite en Indochine, avait prévenu le gouvernement français, il a fait un rapport et pour lui, il préconisait d'abandonner Kaobang et de procéder à l'évacuation des places fortes de la haute région pour rapatrier la défense française plus au sud, du côté du delta du Tonkin. Seulement, sur place, les militaires vont refuser d'abandonner Kaobang, jugé en quelque sorte trop stratégique. C'est une place forte que l'on a cru pendant longtemps imprenable du reste. Or, en ce début du mois de décembre 1949, on vient d'apprendre, et ça c'est important aussi, que la République populaire de Chine, la République d'un certain Mao Zedong, vient d'être proclamée.
« Le compositeur Georges Delerue, extrait de la bande originale du film Dien Bien Phu. Vous écoutez Au cœur de l'histoire, votre émission sur Europe 1, et on vous invite, chers auditeurs, à participer quand vous le souhaitez. Vous pouvez poser vos questions, nous faire part de vos messages par mail, europe1.fr, par Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. On vous attend également sur la page Facebook de l'émission. Au cœur de l'histoire revient dans un court instant avec vous, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la guerre d'Indochine. Bon après-midi sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, nous sommes cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, au cœur de la guerre d'Indochine et le désastre de Cao Bang.
Vous avez bien compris qu'on a proclamé la République populaire de Chine, donc les communistes tiennent désormais la Chine. Ça va être un soutien de poids pour le Viet Minh. C'est très important, hein, cette politisation de toute la politique internationale de l'époque. Évidemment que non seulement la Chine va fournir des armes au Viet Minh, mais elle va lui fournir un soutien diplomatique. On est en train de glisser tranquillement vers cet affrontement de bloc à bloc, hein, vers le monde communiste d'un côté, le monde non communiste de l'autre. Et la France est un peu entraînée, on peut dire malgré elle, dans cet affrontement. Alors, il faut que je vous parle ici de ce qui se passe. On est début 1950, hein, la route coloniale 4, la RC 4, est complètement impraticable maintenant. Cao Bang n'est plus ravitaillé que par avion. C'est un petit peu le petit village qui résiste encore et toujours. Or, au printemps, entre le 25 et le 27 mai, l'armée française échappe de peu à la défaite à Dong Khae, qui est une place importante le long de cette route numéro 4. Grâce à l'envoi de parachutistes, on a évité le désastre complet. Mais l'armée, à ce moment-là, a pris conscience que cette guérilla Viet Minh s'appuyait désormais sur une armée perfectionnée, une armée qui disposait d'une artillerie. Bref, on n'était plus simplement face à des rebelles embusqués pour une guérilla. On était bien dans une guerre face à une armée. Ça, c'est un changement complet de la conception du conflit. Or, l'état-major sait que pour les Français, il n'y aura pas 36 chances du même ordre. Et on va décider l'évacuation de Cao Bang, comme l'avait d'ailleurs proposé, comme l'avait préconisé le général Revers un an auparavant. Voilà ce que disait Élie de Saint-Marc au micro de Patrice Gélinet, je le cite. « Le commandant militaire a décidé d'évacuer la région parce qu'elle était devenue vraisemblablement intenable sur le plan militaire. On a évacué ce pays et cette région que nous avons pacifiée, ces villages que nous avions armés, et nous n'avons pas pu emmener, bien entendu, tous les gens à qui nous avions offert notre confiance et qui l'avaient accepté. » J'allais dire, et voilà, et une fois de plus, c'est tellement fréquent ça dans les guerres coloniales. Certains spectacles restaient gravés dans ma mémoire, ajoute Élie de Noix Saint-Marc, notamment ces camions lourdement chargés qui quittent cette région et les populations qui essaient de s'accrocher à ces camions pour y monter. Et oui, des populations qui se disent qu'elles vont être la proie de ceux qui ensuite vont prendre la place des Français qui s'en vont. Un plan secret se met en place à ce moment-là. La garnison de Cao Bang se replie sous la conduite du colonel Charton, donc le long de la fameuse RC4, alors qu'une colonne de soutien, elle, va partir nettement plus au sud et va remonter vers le nord pour lui prêter main forte. Début septembre, cette colonne de soutien, c'est un groupement de 3 bataillons commandé par le colonel Lepage, c'est pour ça qu'on va l'appeler la colonne Lepage. Cette colonne Lepage part de Lang Son pour le nord, hein, pour plus précisément pour Tat Khae. Si les deux colonnes se rejoignent, là, ça va constituer une grande unité avec la possibilité de rendre le Viet Minh inopérant dans toute la région. Mais tout ça se fait en vérité dans une confusion générale, trop vite peut-être, sans information suffisante. Et jusqu'au dernier moment, les soldats qui montent dans les camions ne savent même pas pourquoi ils partent ni pour quelle destination. Entre-temps, le 16 septembre 1950, le Viet Minh s'empare justement de Dong Khae, qu'il avait déjà donc attaqué quelques mois plus tôt sans succès. « Nous avions l'intention d'attaquer la garnison de la province de Cao Bang », dira le colonel Kim, « mais mes supérieurs m'ont alors dit qu'Ho Chi Minh estimait que notre armée était encore faible. Attaquer maintenant Cao Bang, c'était risquer de perdre la bataille, alors il a choisi Dong Khae. D'après mes supérieurs, Ho Chi Minh a dit que si nous attaquions Dong Khae, alors nous couperions la route numéro 4 et Cao Bang serait isolé. » C'est ça le but, évidemment. Pour l'armée française, la nouvelle est catastrophique, évidemment. À Dong Khe, il y avait quand même 15 bataillons Viet Minh. Leur motivation incroyable a permis à ces bataillons de s'emparer de la citadelle en moins de 3 jours. Jamais l'armée française n'avait sans doute été malmenée de cette manière. Voilà ce qu'écrit Lucien Baudard, le chinois, le grand auteur de cette guerre et de cette région. Le fanatisme asiatique, écrira-t-il, le fatalisme asiatique, avait poussé dans l'horreur absolue une grande partie de l'armée nouvelle de Giap. Les soldats étaient bien plus que des volontaires de la mort. Quand ils bondissaient hors de leurs trous, ils ne vivaient déjà plus. Cadavres en marche, faisant les gestes de leur agonie. Explosifs vivants, sautant sur les enceintes. Vagues humaines, se lançant sur les mitrailleuses. Quel tas de corps sacrifiés, en morceaux, carbonisés au milieu des débris de leurs grenades, de leurs étranges instruments fumigènes, de leur arsenal à la fois moyenâgeux et scientifique. Cela faisait des charniers 10 fois, 20 fois plus grands, plus épais, plus brûlés que ceux que l'on avait déjà vus. Côté français, évidemment, cette supériorité de plus en plus manifeste du Viet Minh devient, on ne saurait plus, inquiétante. Comment lutter avec 3 bataillons en provenance de Cao Bac quand il y en a 15 côté Viet Minh? Et puis surtout, le Viet Minh vient, ça y est, de couper en deux cette route coloniale numéro 4, cette RC4, ce qui va empêcher les colonnes françaises de se rejoindre. Maintenant, Cao Bang est isolé, les troupes Viet Minh attendent patiemment l'arrivée des Français. Elles savent très bien qu'elles vont maintenant pouvoir les piéger.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes avec vous au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, aujourd'hui, nous nous retrouvons au cœur de la guerre d'Indochine et de la terrible bataille de la route coloniale 4.
Donc vous voyez quels sont les plans de l'état-major français. Vous avez cette colonne qui monte du sud vers Tathké, tandis qu'une autre colonne doit quitter Cao Bang, mais pour permettre l'évacuation, il faut reprendre d'abord Dong Khe, qui elle vient de tomber aux mains du Viet Minh. La colonne Lepage, c'est celle qui est partie du sud et qui atteint Tathké, doit donc continuer sa route vers le nord et Dong Khe. Le 1er octobre, 2400 hommes prennent cette route de Dong Khe. Ils se séparent en deux unités. On est en pleine saison des pluies. Il faut toujours tenir compte, évidemment, du climat, surtout dans des régions comme celle-ci. Les pluies sont vraiment, il pleut vraiment beaucoup et l'avancée est devenue très difficile. Et soudain, les soldats de la colonne Lepage sont surpris. Une horde de soldats vietnamiens surgit des forêts, les prend à revers. Tous ces soldats sont armés de mitraillettes. Et en moins d'un quart d'heure, c'est une compagnie entière qui se trouve anéantie. Après une nuit de combat, le 3 octobre, il va falloir se rendre à l'évidence. La reprise de Dong Khe, j'allais dire, est impossible. En tout cas, s'annonce vraiment très difficile. Mais le même jour, ce 3 octobre 1950, donc, on apprend une nouvelle assez terrible, c'est que le colonel Charton a décidé l'évacuation de Cao Bang. Personne ne sait, bien entendu, ce qui se passe de l'autre côté. Du côté de Dong Khe, 2700 hommes et des civils partent et abandonnent la ville en brûlant derrière eux, en détruisant tout. C'est une sorte d'exode qui se met en place. Les camions qui partent le long de cette route, de cette RC4 et qui descendent surchargés vers le sud. Pendant ce temps, à Dong Khe, la colonne Lepage est quasiment détruite et le peu d'hommes qui restent va partir vers l'ouest, vers la cuvette de Koh Sa. Mais derrière la végétation, il y a des falaises qui encercle la cuvette et ça, les hommes de la colonne Lepage ne le savent pas encore. L'unique sortie de cette cuvette, de ce qui ressemble véritablement à un piège, à une nasse, c'est un très étroit passage et c'est un sentier abrupt. Le 4 octobre, l'état-major donne l'ordre au colonel Charton, qui mène la troupe en provenance de Cao Bang et descend donc vers Dong Khe, de quitter la RC4 pour prendre une autre route et pour essayer d'aller porter secours autant que possible à la colonne Lepage bloquée dans sa fameuse cuvette de Koh Sa. Les pistes, les petits chemins en pleine jungle, il faut imaginer tout ça, il faut couper la végétation à la machette, au coupe-coupe, comme on dit, traverser des rivières. Cette colonne longue de plusieurs kilomètres ne progresse vraiment que très lentement. Les soldats ont faim et soif, certains n'ont pas à manger et quasiment pas bu depuis très longtemps. Les troupes de Giap, pendant ce temps, arrivent. Toutes ces troupes sont armées de mitraillettes, je vous le disais tout à l'heure. Les combats s'engagent dans la jungle elle-même. On essaie comme on peut de s'extirper de là. La colonne va se disperser et très vite, il apparaît qu'elle ne fera pas le poids face à cette armée vietnamienne beaucoup plus nombreuse. Les morts jonchent partout le sol. On n'a plus le temps de les enterrer sous le feu de la mitraille et les blessés seront abandonnés sur place. Les rescapés de la colonne Charton trouveront refuge sur les hauteurs de la côte 477, à quelques centaines de mètres, à peine à vol d'oiseau de la cuvette de Tococsa, là même où se trouvent les restes de la colonne Lepage, qui elle a été entièrement encerclée. Voyez un peu l'ampleur du désastre. Et à l'aube de ce 7 octobre 1950, les légionnaires du 1er bataillon étranger de parachutistes de la colonne Lepage lancent un assaut sur un sentier retenu par le Viet Minh. Mais la seule issue, la seule sortie possible, la seule issue pour quitter cette espèce de piège de Coxa. Nombreux seront les hommes qui vont tomber en essayant de faire sauter ce verrou. Et en fin de matinée, ce qui reste de la colonne Charton retrouve la colonne Lepage. Alors c'est vrai que la jonction est effectuée, mais on a envie de dire pourquoi faire. Maintenant, il reste vraiment plus grand monde. Le curé de Cao Bang donne la bénédiction aux morts et aux soldats en train de mourir. Par petits groupes, les survivants des deux colonnes vont essayer d'atteindre le sud et Tat Khe. Une fois arrivés sur place, ils sont soignés, évacués par avion. Comme de nombreux, enfin on peut dire que de très très nombreux soldats ont été amputés, ont dû être opérés là sur place. À ce moment-là, le Viet Minh est toujours aussi offensif et on entend toujours des bruits de mitraillettes. Et le Viet Minh va envahir Tat Khe quelques heures plus tard à Lang Son, où se trouve son état-major. Le colonel Constant décide d'évacuer cette place forte, qui pourtant elle n'était pas directement menacée par le Viet Minh. Il laisse tout sur place, la nourriture, les armes, tout cela va tomber aux mains des assaillants. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Franck Ferrand.
Il est toujours un peu difficile de décrire des opérations de guérilla. Elles n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles que la guerre. En l'occurrence, ce qui est évident, c'est une organisation beaucoup plus forte que prévu du côté du Viet Minh et une désorganisation croissante du côté français. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et au cœur de la guerre d'Indochine avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, l'historien et membre du CSA, Patrice Gélinet, auteur du livre Indochine 1945-1954, chronique d'une guerre oubliée, paru chez Acropole.
Alors j'ai commencé, Patrice Gélinet, ce récit en plein milieu, si je puis dire, de la guerre d'Indochine avec ce désastre de Cao Bang. Évidemment, ensemble, nous allons revenir aux origines pour peut-être expliquer comment on en est arrivé là, car je vois que s'accumulent les questions de nos auditeurs et que certains se posent des questions sur les décisions qui avaient été prises par l'état-major. On va venir à tout ça. Voilà ce qu'on pouvait lire le 17 octobre 1950 dans l'Époque. Je le cite et je vous cite. Chaque jour apporte hélas des nouvelles un peu plus alarmantes d'Indochine où nos troupes sont obligées d'abandonner un à un les postes qu'elles tenaient le long de la frontière chinoise entre Cao Bang et Lang Son. Le haut commandement français a ordonné l'évacuation civile de Lang Son. La vie continue calmement à Hanoï. Cependant, bon nombre d'Européens ont déjà quitté la ville en avion pour se rendre à Saïgon. C'est vrai que au milieu de cette année, à la fin de cette année 1950, les choses sont réglées, si je puis dire, même s'il reste encore 4 bonnes années de guerre, on va y venir. Comment, reprenons peut-être les choses à l'origine, comment s'est constitué ce mouvement nationaliste qui voulait l'indépendance de l'Indochine à l'issue de la Seconde Guerre mondiale?
Alors il s'est constitué en fait pendant la Deuxième guerre mondiale.
Oui.
C'était un tournant. Mais deux mots peut-être quand même sur le titre que vous avez rappelé de guerre oubliée. Vous l'avez dit vous-même, c'est vrai que les Français y ont attaché moins d'intérêt, moins d'importance que, par exemple, la guerre d'Algérie plus tard, pour des raisons évidentes. D'abord, ils sont préoccupés en 1946, lorsque se déclenche la guerre, par la reconstruction d'un pays qui a souffert de 4 ans d'occupation, qui a subi une défaite considérable. Il y a l'éloignement, c'est très loin, l'Indochine. N'oublions pas que l'Indochine, c'est le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Mais la guerre s'est surtout déroulée au Vietnam et dans la province nord du Vietnam,
au Tonkin,
qui est le Tonkin. Il y a aussi le fait que c'est une armée de métiers qui s'y bat, ce sont des volontaires. Donc les Français, les familles françaises sont moins touchées par le fait, d'autant plus que ces volontaires sont pour beaucoup d'entre eux de la Légion étrangère et composée d'un très grand nombre d'Allemands.
Et ce n'est pas une colonie de peuplement, hein, c'est voilà. Pas comme en
et
Algérie,
voilà.
Par
il y
exemple.
Il n'y a pas l'équivalent des Pieds-Noirs. Il y a 25 000 Européens, je ne parle pas du contingent, du contingent de l'armée, du corps expéditionnaire quand il arrive, mais 25 000 sur 25 millions d'habitants, alors que 40 000 sur 25 millions d'habitants, alors que vous avez 1 million de Pieds-Noirs sur 10 millions d'habitants en Algérie. Donc tout ça fait qu'on s'en désintéressait en même temps.
Et puis on sort de la Seconde Guerre mondiale,
voilà,
il ne faut pas l'oublier.
Ça. Et on reconstruit.
On en avait un peu assez de la guerre,
voilà,
évidemment.
Voilà. Et donc, on s'y intéresse peu. En plus, c'est tellement complexe tout ça, et notamment le déclenchement, vous y faisiez allusion.
Alors, voilà.
Parce que c'est un petit peu compliqué. Bon, en fait, ça provient de plusieurs choses. Vous l'avez dit, une méconnaissance du sentiment national vietnamien. Les Vietnamiens, c'est une nation. Et c'est une nation qui a fait preuve d'une très grande résistance au moment de la domination chinoise. Pendant des siècles, ils ont résisté à la domination et parfois à l'occupation chinoise.
Est-ce que l'exemple qu'on pouvait avoir dans d'autres colonies, notamment africaines, d'une absence d'esprit national, ou en tout cas d'un esprit national très évanescent, ne nous a pas un peu trompé là-dessus? Parce qu'on n'avait peut-être pas pris la mesure de ce nationalisme vietnamien.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas compris qu'on avait affaire à un peuple jaloux de son indépendance, etc. Un peu résigné parce qu'il se disait l'armée française, c'est quand même quelque chose d'important. On ne peut pas se battre, se dresser comme ça contre la France. On attendra le bon moment. Et le bon moment, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. On se rend compte en 1940 que l'armée française n'est pas invincible. Elle s'est fait battre en 1940, la France est occupée. La France est occupée, puis sous la houlette du maréchal Pétain, elle se résigne elle-même. Et puis, il ne faut pas oublier que le Pétain donc, décide de collaborer avec l'Allemagne, alliée du Japon.
Et voilà.
Quand le Japon occupe le Vietnam, il le fait avec la complicité du représentant du gouvernement
qui était
français,
notre Indochine,
le haut commissaire,
à nous, à l'époque,
oui,
hein.
L'amiral Decou, qui est là-bas, qui est haut commissaire et qui garde l'administration française et qui collabore avec les Japonais. Sauf que en 44, quand la France en métropole, quand la France est libérée, les Japonais se méfient de l'administration française, ils suppriment l'intégralité, ils anéantissent l'intégralité de l'administration, de l'armée française qui est présente là-bas, et il y a un vide énorme politique, puisque lorsque le 2 septembre 1945, le Japon capitule, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus rien. Et Ho Chi Minh, le chef du Parti communiste, qui change le nom du Parti communiste pour en faire le Viet Minh, Ligue pour l'indépendance du Vietnam, ralliant à lui tous les gens qui sont favorables à l'indépendance, proclame l'indépendance dans un pays où les Japonais ont rendu les armes et où l'armée française est absente encore pendant 2 mois. Et il profite de ce laps de temps pour mobiliser derrière lui tous les partisans de l'indépendance.
Et là, on peut dire que le tout nouveau régime de la 4e République va être un peu dépassé par les événements. Parce que, vu de Paris, on est en train d'organiser un statut pour l'Indochine. On veut l'associer à cette espèce de Commonwealth à la française qu'on appelle l'Union française. On n'a pas pris du tout la mesure de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et pourtant, certains avaient prévenu.
Le général Leclerc, c'est lui qui arrive effectivement en Indochine, au Vietnam.
Envoyé au départ par le général de Gaulle.
Par le général de Gaulle, et il comprend très bien qu'on ne peut pas revenir sur cette indépendance. Sauf que à Paris, on est décidé à ne pas l'accepter. On accepte simplement une espèce de statut un peu hybride, l'autonomie du Vietnam, ce que ne souhaite absolument pas Ho Chi Minh. Il veut plus loin, il veut l'indépendance de son pays. Et c'est cette espèce d'ambiguïté, au lieu de faire comme les Britanniques qui, à la même époque, en 47, accordent l'indépendance à l'Inde, nous, on loupe le coche, et finalement, s'engage dans une guerre interminable, sans issue, et dont l'issue sera Dien Bien Phu.
Alors je ne vous cache pas qu'un certain nombre de nos auditeurs se posent des questions sur les décisions prises par l'état-major. C'est vrai que dans le récit que j'ai donné, quand on parle de Cao Bang, un peu comme lorsqu'on parlera plus tard de Dien Bien Phu, les erreurs d'appréciation se sont, c'est vrai, accumulées. Est-ce que, véritablement, il y a eu déficience de l'autorité militaire en Indochine dans ces années?
Il y a manifestement une sous-estimation de l'adversaire. Plus tard, à Dien Bien Phu, une journaliste française très connue, qui était Brigitte Friang, arrive et puis dit, mais enfin, vous rendez compte, vous avez en face de vous une armée, parce que vous avez très bien choisi, et puis l'autre lui dit, mais il n'a pas fait l'école de guerre, Giap. Mais vous avez très bien choisi, le tournant de la guerre, c'est Cao Bang.
C'est ça, hein.
Jusque-là, c'est une guerre qui n'intéresse pas beaucoup, qui
une
guérilla contre des maquisards, une armée française contre des maquisards, et à partir de 1949, la Chine entre dans le jeu et elle va aider, apporter une aide considérable au Viet Minh. Et à ce moment-là, effectivement, on trouve deux armées l'une contre l'autre, mais l'armée française sous-estimant manifestement les capacités de résistance et de combat des Vietnamiens.
Est-ce que l'armée française connaissait, pourtant ça faisait longtemps que les Français avaient colonisé l'Indochine, mais est-ce qu'on connaissait aussi bien le terrain que cette armée vietnamienne, cette armée Viet Minh, justement?
Oh oui, on le connaissait bien, mais encore une fois, c'est vraiment cette espèce de condescendance, voire de mépris. Vous savez, là-bas, comment est-ce qu'on appelait les Vietnamiens? Les Nha Quê. Ça veut dire paysan, ça veut dire pekno. Même en vietnamien, le terme est péjoratif. On considère, puis on se dit, on est tellement bien, on leur apporte tellement de choses. L'Institut Pasteur, l'école d'ailleurs où on apprend aux Vietnamiens liberté, égalité, fraternité, c'est-à-dire en fait les grands principes de la République qu'on n'est pas capable de respecter là-bas en Indochine, car l'égalité n'existait pas.
Alors il faut
et la liberté non plus.
Il faut souligner le rôle du général Delattre dans cette affaire. On est juste après l'épisode que je viens de raconter, justement.
Le désastre de Cao Bang.
Juste après le désastre de Cao Bang.
Alors il a derrière lui un passé prestigieux. Il a été pendant la guerre, après avoir été fidèle au maréchal Pétain en 42, lorsque l'Allemagne envahit la zone dite libre, la zone non occupée, il proteste. Il est condamné à 10 ans de prison, il s'évade, il va commander ensuite la première armée française qui participe au débarquement en Provence, et il va remonter le long du Rhône jusqu'en Allemagne. Et donc il est vraiment très connu, c'est un homme en plus qui a un charisme extraordinaire et qui va renverser un peu la situation, en tout cas va contenir l'avancée, parce qu'on croyait que la guerre était fichue dès Cao Bang.
C'est un peu une préfiguration du plan Châle en Algérie, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a quand même eu un succès militaire français à partir de 51-52.
Oui. Mais des victoires à la Pyrrhus.
C'est ça.
Parce que, par exemple, que va faire Delattre? D'abord, entre-temps, la France a reconnu enfin l'indépendance du Vietnam sous l'autorité de l'empereur, qui est une rencontre que j'ai faite aussi, qui était tout à fait fascinante,
Bao Dai.
À côté d'ici, l'empereur Bao Dai. Que fait Delattre? Il va aux États-Unis. Pourquoi? Parce que 1950, c'est l'arrivée des communistes au pouvoir en Chine, mais c'est aussi le début de la guerre de Corée. Et pour les Américains, cette guerre en Indochine les intéresse. Elle se passe au sud de la Chine, alors qu'ils se battent au nord, en Corée, contre les Chinois. Eh bien, le fait que la France soit au sud, la guerre devient un épisode de la guerre froide. Et donc, les Américains vont aider et participer pour plus de moitié aux dépenses de guerre françaises en Indochine.
C'est-à-dire que le Viet Minh a derrière lui la Chine, et la France a avec elle les États-Unis.
Les Américains. Ouais. Les avions qui volaient, qui bombardaient au napalm, d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire des guerres vietnamiennes, étaient des avions fabriqués aux États-Unis. Donc il y a ça, il y a le fait que Delattre vietnamise aussi la guerre. Il va créer une armée, il va demander à Bao Dai de créer une armée vietnamienne, encadrée par des officiers français, dont le fils d'ailleurs de Delattre, qui va être tué d'ailleurs là-bas. Ça va beaucoup éprouver Delattre pendant toute l'année 50. Et puis surtout, donc, il remonte le moral. Mais tout ça, c'est des victoires à la Pyrrhus. Lui-même en était conscient. Il ne sera resté d'ailleurs qu'un an en Indochine, puisqu'il meurt en janvier 1952.
À votre place, Patrice Gélinet, il y a quelques mois, se trouvait Jacques Chancel, qui était venu nous raconter son expérience extraordinaire de correspondant de guerre là-bas. Il était tout jeune, il avait perdu la vue pendant plusieurs mois. Nous venons dans un instant à la mythologie de la guerre d'Indochine.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le compositeur britannique Patrick Doyle, extrait de la bande originale du film Indochine. Excellent après-midi sur Europe 1. Vous êtes au cœur de la guerre d'Indochine cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité, l'historien Patrice Gélinet.
Patrice Gélinet, auteur d'Indochine, chronique d'une guerre oubliée. Et nous savons, nous comprenons maintenant pourquoi elle a été oubliée, cette guerre, éditée chez Acropole avec Lina et France Culture, parce que c'est un ouvrage très limpide. Hein. On a une sorte de résumé très fort avec de beaux témoignages de toute cette guerre d'Indochine, tiré d'une série d'émissions que vous aviez faites pour France Culture, en fait, Patrice Gélinet.
En 1989, oui.
Ce qui vous a permis de rencontrer les grands témoins, ça c'est fascinant.
Ah, c'était fascinant, d'autant plus qu'à l'époque j'étais encore professeur d'histoire, j'enseignais notamment à des élèves de terminale la guerre d'Indochine, donc je parlais de la guerre d'Indochine le matin et je rencontrais les grands témoins l'après-midi, c'était tout à fait absolument, c'était fascinant.
Il aurait fallu pouvoir emmener les élèves, mais c'est ce que vous faites grâce à la radio et grâce à ce livre d'une certaine manière. Je parlais de Jacques Chancel tout à l'heure, il n'est pas dans ce livre, mais il fait partie de ceux qui ont raconté la guerre aux Français, et évidemment le plus célèbre de tous, c'est Lucien Baudard dont on a parlé, mais il faudrait parler de Jules Roy, d'un certain nombre de grands témoins, bien entendu. Ils ont joué leur rôle dans la mythification de ce conflit.
Oui, y compris d'ailleurs des écrivains ou journalistes qui se sont opposés à la guerre, mais assez tard. Hein, c'est à partir de Caoban quand on se rend compte qu'elle est sans issue.
Il faut rappeler le rôle important,
très important de Mauriac, par exemple, qui s'y est opposé dès le début.
Politiquement,
oui. Et puis également des auteurs, des écrivains, des journalistes proches du Parti communiste, qui lui, à partir de 1950, s'engage contre la guerre, contre ce qu'il appelle la sale guerre.
Je ne veux pas faire de l'histoire personnelle, Patrice Gélinet, mais vous avez vous-même été personnellement touché par cette guerre. C'est un de vos grands souvenirs d'enfance?
Oui, j'étais enfant. Moi, j'avais 8 ans au moment de Dien Bien Phu. Et je me souviens très bien, mon père était effectivement, mais il était officier de marine, donc il n'était pas Dien Bien Phu, il était à Haiphong, dans le port de Haiphong. Donc on était restés avec ma mère, on était restés à Paris. Et évidemment, on suivait de près ce qui se passait en Indochine. Mais les journaux n'en parlaient pas beaucoup jusqu'au jour où il y a eu cette une dans tous les journaux, Dien Bien Phu est tombé. Et là, l'enfant que je suis, qui plutôt jouait aux billes, qui regardait des westerns au cinéma, qui lisait des bandes dessinées et jouait avec ses copains, brusquement, j'ai eu le sentiment que quelque chose de très grave s'était passé, d'autant plus que ça a eu un retentissement mondial, alors qu'on n'en parlait pratiquement jamais. Je dis dans ce livre que les Français ont découvert la guerre le jour où ils l'ont perdue. Mais c'est un peu vrai. À part Caoban, il y a eu peu d'échos dans la presse. Et là, brusquement, en même temps, j'ai eu peut-être à ce moment-là, le goût de l'histoire.
Nous avons
parce que c'était l'histoire qui se passait.
Bien sûr, oui, là, vous aviez compris que l'histoire, c'était de la vie, c'était de l'humain, et ça nous touchait tous, évidemment. Nous avons eu l'occasion ici de faire plusieurs émissions sur Dien Bien Phu, dont une avec Geneviève de Gallard, qui m'est restée en mémoire.
Et on
connaît bien Dien Bien Phu, c'est le désastre final. On connaît moins bien tout ce qui s'est passé avant, en fait. C'est ça, dans la guerre d'Indochine. Un mot de Dien Bien Phu.
À partir de Delattre, qui lui est mort en Dien Bien Phu, il est mort en 1952, on est en fait constamment sur la défensive. Delattre avait créé autour de Hanoï, dans le delta du fleuve Rouge, ce qu'on appelait la ligne de Delattre, mais enfin, elle était poreuse. Le Viet Minh pouvait s'infiltrer très rapidement, très, très facilement. Il y a un Vietnamien d'ailleurs qui dit à un moment donné, la ligne de Delattre, c'est comme si on voulait couper l'eau avec un couteau. Bon, la guerre était perdue. Lorsque Dien Bien Phu se déclenche, on en est conscient. On essaye au fond d'en sortir en beauté, faire un peu comme les Américains d'ailleurs à la fin de leur propre guerre d'Indochine, éviter le désastre. Sauf qu'on n'a pas réussi à l'éviter. Et Dien Bien Phu, là encore, ça procède de cette méconnaissance que l'on a de la capacité, de l'importance, de la puissance, de la détermination de l'armée de Ziap. On dit Ziap là-bas, on ne dit pas Giap, Ziap au Vietnam. Et on se dit, le général Cogny, qui commande les forces dans le nord du Vietnam, au Tonkin, Cogny dit, je souhaite l'engagement à Dien Bien Phu. Le plus drôle, si on peut dire, c'est pas drôle du tout en réalité, le plus extraordinaire, c'est qu'à Dien Bien Phu, on a créé un camp retranché avec des points d'appui qui portent des prénoms de femmes, et on attend le Viet Minh, on n'en a pas peur du tout. On espère qu'il viendra dans cet engagement et qu'il sera laminé. Et le général Cogny dit, je souhaite que Giap ose attaquer Dien Bien Phu, et il verra ce qu'il verra. Alors, on a dit, oui, bon, on n'a pas vu que c'était une cuvette, qu'on pouvait se faire tirer dessus à partir des collines alentour.
Le cirque alentour.
Oui, mais ça ne pouvait pas être autre chose qu'une cuvette, puisque le seul lien qu'il pouvait y avoir avec Hanoï, c'était l'aviation, c'est-à-dire un terrain d'atterrissage. On n'a pas construit un terrain d'atterrissage sur des montagnes. Mais on était persuadé que Jap que les Vietnamiens n'arriveraient pas à faire grimper l'artillerie sur les montagnes. Ce qu'ils ont fait, en plus ils les mettaient dans les casemates qui étaient cachées, et ils ont dès le début anéanti la piste d'atterrissage.
Pilonné à l'artillerie dans un premier temps.
Et c'était fichu à ce moment-là, on ne pouvait plus ravitailler Dien Bien Phu que par avion, et encore il n'y avait même plus d'avion, c'est par parachutage.
Cette guerre d'Indochine qui se déroule, on ne le dira jamais assez, dans la relative indifférence de la nation française. On ne peut pas dire que la population soit très captivée par ce qui se passe, sauf, comme vous l'étiez vous-même, les familles des combattants, bien entendu. Cette guerre, elle s'achève par des accords politiques, les accords de Genève.
Oui. Alors en fait, et par la coupure du Vietnam en deux, avec un Vietnam, deux Vietnams indépendants, l'un qui était resté du côté américain, la France au d'ailleurs sud. En est chassée au sud, et au nord, le Vietnam de Ho Chi Minh. Ce qu'il faudrait savoir aussi, elle se termine, vous l'avez dit, par les accords de Genève le 20 juillet. Il faut savoir qu'à peine
54.
3 mois plus tard, 20 juillet 54, 3 mois plus tard, c'est le 1er novembre 1954, déclenchement de la guerre d'Algérie.
Et
il y a un lien entre les deux. Ouais. Parce que si, en France métropolitaine, on a accordé peu d'importance à ce qui se passait en Indochine, faut pas oublier que, dans nos colonies, et notamment, singulièrement, en Algérie, on regardait ce qui se passait là-bas. Et le jour où on a appris la chute de Dien Bien Phu, lorsque les Algériens l'ont appris, pour les partisans de l'indépendance, ils se sont dit, pourquoi ne pas réussir en Algérie ce que les Vietnamiens ou le Viet Minh a fait en Indochine. Et il y a un sous-préfet que j'avais interviewé justement à cette occasion, qui était sous-préfet de Batna, qui me dit, le jour de la chute de Dien Bien Phu, je me promenais dans les Aurès, là où a commencé la guerre d'Algérie, je me promenais dans les Aurès, et j'ai entendu des you-you dans la montagne, et je me suis dit, au fond, pour le Coran, la force n'est plus du côté des Français, Dieu n'est plus du côté des Français, et il ajoute ce sous-préfet de Batna,
de force a changé de camp,
ensuite,
ouais.
Et il dit, effectivement, je me demande dans quelle mesure Dien Bien Phu, c'est pas le début de la guerre d'Algérie, qui a commencé 3 mois après les accords de Genève.
En tout cas, la concordance de temps plaide tout à fait en faveur de cette thèse. Le sous-préfet en question, le sous-préfet de Batna, il s'appelait Jean Delplanque. On peut trouver son témoignage, parce que alors, ce qu'il faut dire, c'est que on peut, dans votre livre, grâce à des flashcodes, ces espèces de, comment est-ce qu'on pourrait dire, ce sont des icônes, hein, qui est...
Oui, que l'on met, sur lequel on met son
iPhone ou son smartphone, et ça permet d'assister tout simplement à l'interview, ça c'est formidable.
D'entendre, oui, des extraits qui sont choisis. Oui, c'est formidable. Je ne sais pas m'en servir parce que je suis absolument assez avec l'informatique, mais je sais que c'est formidable.
L'essentiel, c'est que votre éditeur sache s'en servir et que vos lecteurs puissent en profiter, finalement. Donc, politiquement, on comprend bien que ce premier conflit en Indochine va en appeler un autre, en quelque sorte, et que ça va être, effectivement, dès la Toussaint de la même année, 1954, le déclenchement de la guerre d'Algérie. Alors, tous ces témoignages que l'on peut écouter en même temps qu'on lit votre ouvrage, vous êtes allé les chercher vous-même. Vous avez rencontré tous les grands acteurs. Ouais. Ça, c'est formidable. On parlait de Giap ou Ziap, comme vous voudrez. Vous l'avez rencontré.
Tout à fait, oui. Pham Van Dong aussi, qui est peut-être moins connu, parce que Ziap, c'est le vainqueur de Dien Bien Phu, c'est le chef de l'armée. Pham Van Dong, c'était le numéro 2 du Viet Minh. Il a été ensuite premier ministre du Vietnam pendant la guerre américaine. C'est un personnage...
C'est l'homme de confiance d'Ho Chi Minh.
Oui, et un révolutionnaire. Vous savez, il m'a raconté une chose, c'était un personnage tout à fait étonnant. Il avait un rire, on l'entend dans ses émissions, il avait un rire extraordinaire, à la fois inquiétant et en même temps très très chaleureux. Et je me souviendrai toujours qu'il m'a raconté comment, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, il est emprisonné parce que c'est un révolutionnaire. On l'envoie dans le bagne de Poulot-Condor, qui était vraiment redouté par tous les indépendantistes. Et en 1936, Blum arrive au pouvoir, le Front Populaire, et on libère Pham Van Dong. Et alors, à la sortie de prison, il y a le patron de la prison qui dit à Pham Van Dong, dites-moi, vous savez ce que j'ai reçu ? À ne libérer sous aucun prétexte, dangereux pour la France. Et alors je lui dis, il est peut-être pas tort finalement. Et Pham Van Dong se marre. Il y a un rire comme ça qui évidemment ne peut pas être retranscrit dans ce livre. Mais c'est un personnage très chaleureux. Je suis resté 2 heures avec lui pour parler aussi bien d'ailleurs de la guerre française que de la guerre américaine qui a suivi. Parce qu'une autre conséquence de la guerre d'Indochine, c'est la guerre américaine.
Ce sont des personnages très remarquables qui constituaient l'entourage.
Bao Dai qui habitait...
Avant de venir à l'empereur Bao Dai, dans l'entourage même d'Ho Chi Minh, on était en présence de cerveaux très, très agiles. Ce sont des gens remarquables.
Oui, des polytechniciens, des Vietnamiens qui avaient pu poursuivre des études, effectivement, en France, et qui, d'ailleurs, fabriquaient, quand Ho Chi Minh n'avait pas d'armes, parce qu'il n'avait pas d'alliés, parce que la Chine n'était pas avec lui, ils fabriquaient eux-mêmes leurs propres armements. C'était des gens assez extraordinaires et encore une fois, déterminés, de même que ces soldats dont parle Baudard, et qui étaient capables de véritables bombes humaines, de se précipiter sur les soldats français. Quand vous en avez en face de soi un peuple qui est capable d'aller jusque-là, vous savez, franchement, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on a raté le coche de l'indépendance que voulait Leclerc.
Voilà. L'empereur Baudai vous a reçu, donc.
Oui, dans un petit appartement à Paris. Il est décédé aujourd'hui, mais il m'a beaucoup impressionné parce que il a été un enjeu considérable. Les Japonais, dans un premier temps, lui ont accordé l'indépendance en 1945, après le 9 mars 1945, après qu'il soit débarrassé de l'administration française. Puis ensuite, c'est Ho Chi Minh qui l'a pris parce qu'il voulait rallier toute la population possible, qu'il l'a pris dans son gouvernement au tout début, puis ensuite c'est le gouvernement français qui lui donne. C'était un personnage tout à fait fascinant, très très impressionnant, mis au pouvoir d'ailleurs à l'époque des Japonais, mais qui était vraiment un personnage qui m'a beaucoup impressionné, comme beaucoup d'autres, vous savez.
Oui. Alors il y a tous ceux du côté français, bien entendu. Alors le général Bijard, ça, il se taille la part du lion, évidemment. Oui. Personnalité extraordinaire, auquel on consacrera peut-être une émission un de ces jours, c'est très intéressant. Le grand reporter du Figaro, Jean Pouget, qui vous a livré.
C'est un personnage fabuleux qui a eu cette phrase. Vous savez, il avait le sens vraiment de la formule. Il disait, quand j'ai demandé pourquoi, comment s'est déclenchée cette guerre, c'est pourquoi cette guerre, parce que les Français ne comprenaient pas très bien ce qu'on y faisait là-bas. Il disait, elle s'est déclenchée par inadvertance et elle s'est poursuivie par inertie. Je trouve que la formule est assez belle.
Déclenchée par inadvertance et poursuivie.
C'est très vrai.
Par inertie, c'est tellement bien dit, oui. Il faut qu'on dise un mot d'Élie de Saint-Marc, justement.
Voilà, lui aussi très impressionné par cette guerre, parce que il a été très frappé. Il était dans ces batailles de la route Colonel 4 que vous avez rappelé tout à l'heure, et qui a été l'abandon aussi des populations thaïs, qui parce que nous appuyons
tous ces camions qui s'en vont, les gens qui s'accrochent,
et qui a été bouleversé parce qu'au fond leur sort a été un peu l'équivalent de celui des Harkis plus tard en Algérie, très marqué, et en même temps considérant les Vietnamiens. Il disait jamais mes ennemis, il disait mes adversaires. Ce qui n'était pas le cas du tout quand il a ensuite participé à la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, il était tellement impressionné, tellement fasciné par les Vietnamiens que j'avais pu rencontrer, qu'il pouvait entendre dans l'émission, qu'il est voulu aller au Vietnam. Après, il m'a demandé leur adresse pour pouvoir rencontrer ceux qu'il appelait ses adversaires, qui se battaient contre lui sur la route Colonel 4, qui lui tendaient des embuscades, mais qu'il n'a jamais vu et qu'il est allé voir en Indochine quand il s'y est rendu.
Merci beaucoup Patrice Gélinet. Indochine, 1945-1954, chronique d'une guerre oubliée, c'est édité chez Acropole.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question d'Antoine qui, via notre site europe1.fr, se demande d'où vient l'expression « cousin germain ».
Eh bien, ça vient directement du latin « germen », la progéniture de même sang qui a donné « germanus » ou « germanus », si vous voulez, « naturel ». Donc, au XVIIe siècle, on désigne « germain », ce terme de « germain » désigne deux frères ou deux sœurs qui ont les mêmes parents. Vous savez, il y avait une forte mortalité à l'époque et il y avait beaucoup de remariages. On est en train d'y revenir maintenant avec les familles recomposées. Ben, c'était déjà le cas. Et donc, pour désigner des frères ou des sœurs qui avaient les mêmes deux parents, eh bien, on disait qu'ils étaient frères germains ou sœurs germaines, par opposition à utérins, c'est-à-dire qu'ils étaient de la même mère, ou consanguins quand ils étaient du même père. On trouve cette racine dans le terme espagnol hermano, par exemple, hein, qui désigne le frère. Bon. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, eh bien, on se met à utiliser ce terme de germain dans la locution cousin germain pour désigner les enfants de deux frères, par exemple, ou d'un frère et d'une sœur. Donc, on ira même un peu plus tard, et ça concerne surtout les généalogistes, jusqu'à parler de cousin issu de germain pour la génération suivante. Alors, en tout cas, que cela soit bien clair, ça n'a aucun rapport avec les germains, c'est-à-dire avec la population germanique. On est bien dans une conception qui fait référence au sang et non pas du tout à la population ou à la géographie. Les cousins germains, ce sont les cousins issus d'un même sang.